Bonsoir, nous sommes le lundi 17 avril 2023, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris en FM sur 93.9 et dans le monde entier et au-delà, sur le web, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, et c'est reparti comme tous les 15 jours pour 30 minutes à la découverte de jeunes talents. Aujourd'hui, on va parler d'images, de souvenirs, de scènes, de photographies. Je n'ai pas une, mais trois invités. La relève, ça commence maintenant. Et si on pouvait arrêter ces grésillements dans le casque, ce serait formidable, mais je ne sais pas comment on va faire. Et bonjour Anne Marcel, vous êtes photographe, avec vous il y a Clara Chaloux qui est curatrice, commissaire de festival, on dit comment pour vous ?
Commissaire d'exposition.
Et pour la fin de l'émission, mais si elle veut, elle est notre invitée, elle est arrivée en avance, donc elle peut rester pendant toute l'émission, Lauriane Michel, qu'on peut voir actuellement au théâtre de Belleville, dans une adaptation de La Place d'Annie Arnaud, c'est ça ?
C'est
tout
ça,
bon ?
Exactement.
Et bien moi qui ne suis pas physionomiste, j'ai trois jeunes femmes à cheveux longs, donc ça va être très très compliqué pour moi. Je sens que je vais m'y perdre, mais je vais faire du mieux que je peux. Allez, on part tout de suite au 104 à Paris, c'est la 13e édition du festival Circulation actuellement. Est-ce que c'est la première fois que vous y interveniez, vous, Clara Chaloux ?
Non, pas du tout. Moi, depuis la première édition, je fais partie du collectif, donc ça fait 13 ans.
Ça fait 13 ans que vous sélectionnez des photographes ?
Alors... Non, ça fait 13 ans. Enfin, moi, personnellement, ça fait. Bah, la première édition du festival, c'était mon premier stage. Donc, ça fait 13 ans que j'évolue avec Circulation et le collectif FETA.
Alors, justement, on va tout de suite en parler. On va déjà commencer par parler de Circulation, qui est un festival de la jeune photographie. Quel est le projet au départ ?
Alors, Circulation, l'objectif, c'est déjà en premier lieu d'être un tremplin pour les jeunes photographes sur toute la scène européenne qui n'ont jamais exposé en France et qui sont en début de carrière. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on est vraiment sur des artistes qui sont en début de carrière. Il y a Anne qui lève les mains. Pour la limite d'âge. Et l'objectif de Circulation, c'est, et pour le grand public, d'avoir une accessibilité à toutes les formes photos qui existent, autant sur le fond que sur la forme. Donc vraiment montrer la pluridisciplinarité qui peut exister même à l'intérieur de la photographie. Et aussi pour les artistes et les professionnels, de rencontrer les tendances de la photographie de demain.
Et donc la seule condition, c'est de n'avoir jamais exposé en France, aussi bien en galerie qu'en musée,
C'est ça, c'est d'avoir... jamais ou très peu. Quand il y a des photographes français, on accepte des petites expositions parce que c'est plus. Mais pour les photographes européens, jamais d'exposition en France.
Donc pour vous, Anne, c'était un enjeu d'être repérée par cette exposition, par ce festival. Enfin, moi, j'ai presque envie de parler de festival.
Ah bah, c'est un festival.
Ah bah voilà,
ouais, c'est bon.
Ça va. Ouais, c'était un double enjeu. En plus, le titre est jeune. J'ai 45 ans, donc ça fait plaisir. C'est photographie émergente. Non, mais c'est un festival extrêmement inclusif. À la fois en termes des pratiques photographiques, je pense que c'est important parce que moi en plus j'ai vraiment un travail sur le médium qui n'est pas une photographie qui est ce qu'on appelle une photographie plasticienne, et un enjeu que voilà, c'est ouvert à tous, il y a une vraie diversité de points de vue, donc oui et puis il y a une très belle visibilité, donc je suis ravie.
Le collectif FETAR auquel vous appartenez, en quoi ça consiste alors ?
Alors le collectif, c'est un collectif de 35 personnes, 35 bénévoles, à l'intérieur duquel il y a une direction artistique de 9 personnes. Donc on est un collectif qui travaille de manière totalement horizontale. Et l'objectif de FETAR, c'est d'organiser des événements photos tout au long de l'année, en France et en Europe, et toujours avec cette volonté d'accompagner des artistes émergents, d'aller essayer de chercher des endroits où la photo n'est pas forcément montrée, ou des espaces où on peut se permettre d'aller plus loin dans la photographie, et toujours se challenger sur de nouveaux événements.
Et vous travaillez comment ? Je veux dire, comme vous êtes un collectif de 9, il y a un chef qui décide, vous avez dit pratique très horizontale.
Pas de chef. Alors, chez nous, on n'aime pas les chefs.
Il n'y a pas Jupiter chez vous, vous n'avez pas...
Non, on est à l'intérieur de la direction artistique, du coup on est 9, et on a une coordinatrice générale qui est la salariée du collectif, qui nous accompagne et qui nous aide à prendre les décisions ensemble, à nous structurer, et quand on parle trop longtemps et qu'on fait des réunions trop longues et qu'on a du mal à prendre des décisions, c'est elle qui nous...
Qui vous...
un peu qui nous dit bon là il faut y aller, les filles il faut prendre une décision.
Les filles, c'est parce que c'est un collectif féminin.
Alors on a un garçon dans les neuf dans la direction artistique, mais ça fait longtemps qu'on a tout mis au féminin chez nous.
Non mais c'était pour savoir. Hein.
Mais ouais.
Et donc par rapport à la manière de décider, s'il y a un veto d'une d'entre vous, puisque vous êtes au mieux féminin, moi aussi je vais tout mettre au féminin. Ici aussi on est dans un lieu où on est que des femmes, allons-y. Quelqu'un peut mettre un veto ou...
Alors tout est voté. Dans la sélection d'artistes, en fait, on a plusieurs biais pour sélectionner les artistes. On organise un appel à candidature tous les ans qui a lieu du mois de juin au mois de juillet pendant 2 mois. On reçoit environ 1000 candidatures, entre 900 et 1000 candidatures. Tous ces dossiers sont vus par nous toutes. On se répartit la sélection. On fait une présélection et tous les dossiers sont vus et votés à la majorité. C'est la majorité la règle. Et après... on équilibre parfois la sélection globale de l'appel à candidature par des artistes qu'on repère par d'autres biais.
Mais c'est ce que j'allais vous demander. Vous faites aussi toutes les expos en Europe ?
Oui, bien sûr. Beaucoup d'expositions en Europe. On participe beaucoup à ce qu'on appelle des lectures de portfolio. C'est des rencontres professionnelles entre photographes et professionnels de la photo. Et ça, on y est invité un peu partout en France et en Europe, ce qui nous permet de découvrir vachement de jeunes talents. C'est super.
Et quand les photographes vous envoient un dossier de candidature, c'est ce qu'ils vont exposer ou c'est leur travail passé et il peut y avoir une modification, bon, je sais pas, soit vous, Anne Marsal, comment vous avez fait? Peut-être déjà vous allez nous dire comment vous avez fait, puis on va voir après si c'est conforme à la règle.
Donc en fait, moi c'était plutôt à Arles, donc
aux rencontres photographiques.
Oui, aux rencontres photo, voilà. Et en fait, pour tout dire, j'avais été repérée par une des curatrices il y a 4 ans et ça avait pas marché. Et je l'ai recroisée dans les rues d'Arles l'été dernier. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne me montres plus ton travail, Anne, etc. Et j'ai dit, parce que je ne veux pas te poursuivre. Voilà. Et du coup, j'avais une maquette de livre que je lui ai montrée et qu'elle a beaucoup aimée. Et donc, elle m'a dit, moi, je veux représenter ton travail au collectif. Voilà. Et voilà comment ça s'est fait.
Comment c'est possible, ça, que quelqu'un qui n'aime pas votre travail l'aime la fois d'après? Vous en avez reparlé après? Non, mais c'est intéressant, c'est vous qui avez changé, c'est elle, vous avez changé.
M'a toujours soutenue. Non, elle aimait beaucoup. Non, c'est le collectif en fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses.
Vous n'aviez pas été élue la première fois.
Ouais, j'avais pas été élue. Non, mais j'avais été cette personne pour le coup, cette personne qui s'appelle Marie Guimet, on peut la citer, parce que je lui dois quand même beaucoup, donc je l'aime. Elle s'est vraiment battue pour justement ce qu'elle croit en mon travail depuis très longtemps. Et en fait, je pense que c'est une histoire de. Il y a d'abord mon premier projet. Ce deuxième projet, ils sont pas pareils. Et il y a parfois aussi une sorte de thématisation également du festival quand même. Enfin ça, tu pourras en parler mieux que moi, qui fait que aussi parfois on n'est peut-être pas dans la thématique ou les thématiques que le festival souhaite aborder. Moi, mon travail est souvent, il faut essayer de le dire, censuré. Donc il est assez polémique. Donc bon, il y a des gens en général qui adorent et d'autres qui détestent. C'est pas un travail qui laisse indifférent. Donc les choses peuvent aussi, les mœurs évoluent. Vous avez parlé de féminin, les choses évoluent également dans la société. On est ravis de ça. Donc les points de vue peuvent aussi évoluer. Mon travail n'est pas représenté 2 fois le même travail.
Alors moi, cette année, j'en ai vu qu'une partie. Je vais pas mentir, mais je suis déjà allé au festival Circulation que j'ai toujours trouvé formidable. Le genre est souvent travaillé, peut-être un peu plus cette année, et c'est peut-être pour ça que vous... Est-ce que ça fait partie justement des thèmes? J'essaie de faire de manière un peu astucieuse de parler des thèmes. C'est déjà trop compliqué.
C'était très bien mené.
Trop compliqué.
C'est vrai que, Anne le disait très bien, nous, on n'a pas de thème officiel tous les ans à Circulation. On essaye d'aborder au plus près les gros sujets d'actualité qui se passent en Europe tous les ans. Et aussi, c'est très représentatif de ce qu'on reçoit à l'appel à candidature. Comme on reçoit quand même quasiment 1000 dossiers tous les ans, on a quand même un aperçu des grosses thématiques qui sont abordées par les photographes. Mmh. Et c'est vraiment une envie de représenter ces thématiques. Et c'est vrai qu'on a reçu, par exemple, cette année, énormément de dossiers et de projets qui portaient sur le genre, sur le couple.
Un très beau travail d'un couple de photographes.
Ouais, tout à fait. Mathias et Noah, tout à fait, qui est en extérieur.
Voilà.
Et qui a un travail magnifique.
Il faut aller au 104 à partir de 14h, j'insiste. Pas avant, faites pas comme moi. Et on voit une partie quand on arrive trop tôt, mais J'y retournerai. Pardon, je vous laisse continuer.
Et du coup, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est pour ça que Anne a été choisie?
Non, non, c'était pas ça. La question, c'était plus sur les thèmes.
Mais sur les
c'est
thèmes...
un sujet que vous voyez de plus en plus émerger, la question du
alors,
genre.
Donc là, oui, la question du genre, complètement. C'est vraiment un sujet... On n'avait pas... Ça fait quelques années qu'on a des sujets sur cette thématique-là de manière plus régulière, mais à ce point-là, c'était vraiment assez, assez important. Et au-delà du genre, vraiment aussi sur l'intime, sur le couple, sur l'amour, c'est vraiment des sujets qu'on voit de plus en plus émerger et traités de manière aussi assez différente par rapport à d'autres manières de le traiter qui sont plus classiques.
Il y a ce garçon aussi qui fait un peu un travail à la Cindy Sherman qui s'est pris en photo façon. Je ne sais pas comment expliquer. Il va sur des sites de rencontres, il regarde les descriptions des sites de rencontres gays, il voit les descriptions de l'homme idéal et il se déguise dans les différents...
C'est que des autoportraits. Il part de phrases qu'il trouve sur Grindr majoritairement et il se met en scène pour interpréter cette phrase. Et en fait, il fait tout en plus chez lui. Donc tous les décors qu'on voit, c'est lui qui refait sa chambre. Donc on le voit aussi dans la scénographie, il y a vraiment cette mise en abyme où on est dans sa chambre, il est venu faire lui-même le décor. Et oui, c'est aussi représentatif de pas mal de sujets qu'on a eu cette année.
Juste une petite incursion, Lauriane Michel, si je peux me permettre, vous êtes actrice.
Oui.
Est-ce que ce genre de travail collectif, ça existe aussi dans...
Oui, tout à fait. Des collectifs qui se créent et parfois c'est des collectifs d'acteurs ou alors des mises en scène qui se font à plusieurs metteurs en scène. Là, pour le coup, la place, c'est un travail avec un metteur en scène et moi et la personne qui a fait la scénographie et les costumes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une notion dans le travail avec cette compagnie-là et avec ce metteur en scène. Là, en tout cas, d'échanges et de propositions. Enfin, les choses ne sont pas tout à fait toujours verticales. Voilà.
C'est
aussi horizontal.
C'est rassurant. je retourne à circulation. 27 artistes, 14 nationalités.
Ouais,
vous obligez à choisir des gens qui viennent de pays différents. Vous avez cette contrainte-là au moment des choix?
Alors, on n'a pas, on se met pas de contrainte de chiffres. On ne doit pas atteindre un nombre de nationalités représentées. Mais par contre, c'est le festival de la photographie émergente européenne. Donc, on essaye d'avoir le plus de diversité dans les nationalités. C'est aussi dû à l'appel à candidature. Alors, parfois, on n'a pas de règles. Il y a des pays qui peuvent être représentés où on a 5 artistes une année italien et l'année d'après, on n'en aura pas du tout. Enfin, mais c'est aussi pour ça qu'on organise le Focus, qui est une salle dédiée à une scène européenne particulière.
Alors cette année, c'est la Bulgarie.
Tout à fait. Et donc, du coup,
alors pourquoi la Bulgarie?
Alors, souvent, les Focus, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait des Focus. L'objectif du Focus, c'est vraiment d'aller sur une scène que nous-mêmes, on ne connaît pas et souvent, on a du mal à trouver des artistes par nos biais habituels, ce qui est le cas de la Bulgarie. Je ne suis même pas sûre qu'on ait exposé des photographes bulgares avant le Focus Bulgarie, alors qu'il y a une scène hyper dynamique. Et souvent, c'est aussi des rencontres. On a eu la possibilité de travailler et de rencontrer pas mal d'acteurs de la photographie bulgare qui étaient très actifs, dont un photographe bulgare, qu'on a exposé à la première édition de Circulation, donc on en a quand même exposé, et qui nous a vachement accompagnés dans cette veille et dans cette découverte de cette scène. Donc c'est comme ça qu'on a choisi la Bulgarie.
J'ai peur de dire une bêtise, hein. On a dit c'est la 13e édition, c'est ça?
Ouais,
c'est 13e.
Ça.
Comment a évolué la photo en 13 ans? Qu'est-ce que vous, sur ce cours de ces années, c'est une question horrible, hein. J'en ai bien conscience.
Ça va, parce que comme c'était sur les 10 ans, on a pas mal étudié cette question, donc
ça va. Vous avez vu des changements, en tout cas?
Ouais, on a vu des changements de la manière dont les photographes s'identifient et se représentent. Ils vont plus parler d'artistes, ils sont beaucoup plus dans la pluridisciplinarité. Je trouve qu'il y a moins de peur d'aller chercher la forme, la matérialité dans la photo, de flouter un peu les limites, d'aller aussi mutualiser avec du son, avec de l'image en mouvement, de la vidéo, et d'avoir cette envie de... Et après, il y a aussi une différence entre les différents mouvements de photographie. Par exemple, nous, chez Circulation, dans les premières années, on montrait très peu de photographies documentaires pures et simples, parce que c'était plus dans des cases. Il y avait la photographie artistique, la photographie documentaire, la photographie journalistique. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a vraiment cette confrontation et ce mélange qui se fait entre les différents genres, qui est génial et qui nous permet même pour nous d'aller plus loin et d'avoir moins peur de devoir représenter qu'un certain nombre d'artistes.
Par exemple, je trouve que là, par rapport à ce que vous dites, de ce que j'ai vu, par exemple, le travail de Simon Bouillère, que les gens pourront voir, il est très intéressant parce qu'il est vraiment à la frontière d'une photographie un peu artistique et en même temps purement une photo de reportage.
Tout à fait. Simon Bouillère, c'est vraiment un bon exemple. Il a... Non, mais c'est bon. c'est du coup un artiste qui sort tout juste, un artiste français, il sort tout juste de l'école de l'ENSP à Arles.
Ça, mais vraiment, si vous passez à côté du 104, rentrez rien que pour voir ses photos qui sont très grandes et qui sont incroyables.
Ouais. Il traite du sujet du drift, donc des courses de voitures illégales et qui sont là particulièrement dans la région d'Arles. Et c'est vrai qu'il a vraiment ce regard très documentaire, parce qu'il documente ce qui se passe et en même temps
il documente ce qui se passe à côté,
ouais,
pas la course
fait.
Elle-même.
C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, tout ce qui est représentatif de cette communauté, et en plus avec un regard porté aussi sur le féminin à l'intérieur du drift, alors qu'on va plus l'associer tout de suite à un sport masculin, alors qu'il y a plein de femmes qui font du drift et qui en font à fond. Et donc voilà, et ça c'est vrai qu'il a, dans sa manière aussi de traiter, il travaille à l'argentique. Et il y a aussi ce retour beaucoup à la photographie argentique qui donne un certain grain et une certaine matérialité à la photo.
Tout de suite, on parle du travail d'Anne Marsalon. On parle aussi du spectacle de Lauriane Mitchell, qui est donc au théâtre de Bellevue. Il faut que j'arrête de dire Mitchell, comme si vous étiez la cousine d'Eddie Mitchell. Lauriane Mitchell, pardon. Mais avant, on écoute un peu de musique. C'était très étrange, ça s'appelle Polycool et le titre c'est Spirale.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et elle avait un problème cette virgule ou quoi, je sais pas. Je crois qu'on a un problème avec les virgules maintenant, par principe, les virgules ne vont pas. C'est pas très grave, on est toujours à la relève, on est toujours sur Radio Campus Paris, on parle toujours du festival Circulation avec Anne Massal. L'ai-je bien dit? Clara Chaloux, vous êtes-vous commissaire? Moi, j'aime bien dire commissaire.
Ouais,
vous préférez
va.
Commissaire ou...
Ah, moi, commissaire, c'est bien.
Commissaire. Ouais. Et donc, Lauriane Mitchell, actrice.
Oui.
Ça va. Je ne me suis pas trompé. On revient donc... si je vais encore vous poser une question, Clara Chaloux... Quand même pour dire aux gens qui ne pourraient pas aller au 104 qu'on peut voir aussi des œuvres dans le métro.
Oui.
Alors,
est-ce
que c'est vous qui avez eu cette démarche chez la RATP? Je ne sais pas si je vais donner le nom des stations. Allez, je les ai. J'y vais.
Allez.
Nogent-sur-Marne, Gare de Lyon, Madeleine, Pyramide, Hôtel de Ville, La Chapelle, Saint-Denis, Châtelet-Léal, Bastille. Donc, si vous passez par ces stations, vous avez une chance. Je sais que pour Hôtel de Ville, c'est sur la ligne 1.
Oui, tout à fait.
Pour les autres, je sais moins. C'était quoi l'idée au départ? C'était d'aller vers le public qui ne pourrait pas venir vous voir?
Alors, déjà, nous, on adore investir l'espace public. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en règle générale avec le collectif dans tous nos projets. Et ça fait maintenant, je crois que ça doit faire au moins 5 ou 6 ans qu'on travaille avec la RATP et qu'on a l'opportunité de faire cette action tous les ans. Et on invite du coup 5 photographes, si je ne dis pas de bêtises, cette année à avoir cette opportunité d'aller sur des 4x3 dans le métro dans des immenses linéaires comme à l'Hôtel de Ville. Donc c'est une opportunité pour les artistes et pour le festival, génial. Enfin...
Et pour les voyageurs, c'est la chance d'être dans sa station de métro sans voir de pub.
Mais oui, et nous,
et
on adore, on défend tellement ça.
Merci.
Enfin,
dans celle que j'ai repérée, il y a Marcelo Koslovi, je crois, et il y a aussi Isacco Emiliani, je crois, qui est dans le métro. Il me semble que j'ai vu ses photos et que...
Et il y a Clermont Ferrand aussi. Hors les murs. Non, mais pour ceux qui...
Oui. Clermont-Ferrand, la ville, parce que moi je croyais que vous parliez d'une fille qui s'appelait Clermont-Ferrand.
À une nouvelle station de métro.
Je me suis dit, il y avait une quatrième, je suis perdue. Voilà, donc on peut aller à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, voir aussi
À l'hôtel de Fonfrède, qui est un magnifique lieu à photo, et avec lequel on travaille aussi depuis plusieurs années. C'est la troisième fois qu'on fait un hors les murs là-bas, et Anne a exposé. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais toi t'as vu en plus les expos. Et je sais que le lieu est magnifique.
Ouais, le lieu historique est. Magnifique. Et donc,
toutes les personnes qui passent par Clermont-Ferrand aussi, vous pouvez y aller.
D'accord. On peut peut-être même aller à Clermont-Ferrand exprès pour ça et
mais
en profiter.
Mais oui, surtout.
Moi, j'y suis passé une fois, je crois que la ville est assez belle dans mon souvenir.
Le centre historique est hyper joli.
Et puis, la ville postule pour être capitale européenne de la culture.
Alors,
donc, les planètes sont alignées avec circulation.
On va tous voir Clermont-Ferrand, qui n'est pas une amie, mais qui est une ville. Et je vais m'acheter des sonotones. Alors, Almasal, votre série s'appelle... attention, je parle anglais. On Love, Violence and the Lack of It. Et avant qu'on en parle, moi, j'ai... quelque chose qui m'a perturbé dans ce titre que j'ai essayé
c'est
de traduire.
C'est bien déjà, si vous êtes perturbé, c'est un bon début.
J'adore ça. c'est quand même intéressant dans la vie d'être perturbé, sinon on s'ennuie. Moi j'ai essayé de traduire par sur l'amour, la violence, c'est son absence, mais l'absence de qui? D'amour ou de violence?
Alors du coup en fait justement c'était un peu intraduisible, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'anglais. Moi je dirais de l'amour, de la violence et du manque de. Et donc, on ne sait pas en français à quoi le 2 se réfère. Et c'était justement toute la tension du projet, savoir s'il y a du manque d'amour, du manque de violence, le manque des deux, ou l'absence des deux. Et en fait, ce projet, on me dit toujours, c'est assez drôle parce que les gens pensent qu'il y a un temps court en photographie, alors que c'est un temps qui est quand même long. Dire, mais il y a plein de bouquins qui sont sortis en littérature, Cher Connard, De Dépente, Vers la violence de Blandine Rinkel, que je recommande parce que j'aime beaucoup le travail de Blandine. Mais on m'a dit, donc c'est parce qu'on parle de ça, donc t'as fait tes photos. Non, le projet, il a commencé bien avant. Mais en tout cas, pourquoi j'ai choisi le médium photographique, pour rebondir aussi sur ce que tu disais? Parce qu'il permet de créer ce qu'on appelle de l'invu, c'est-à-dire justement de ne pas enfermer le sens dans du manichéisme, du noir ou du blanc. Et donc j'avais à cœur dans mon projet de retranscrire une forme d'ambiguïté et de ne surtout pas répondre à la question. Parce que je laisse les spectateurs se projeter et se poser la question de leur propre rapport à l'amour et à la violence, et peut-être qu'on pourrait avoir un discours un peu plus un peu plus subtil, un peu plus fin, un peu plus délicat, et se dire que les choses sont peut-être un tout petit peu plus compliquées que parfois
ça.
On l'entend.
Donc c'était la deuxième partie de ma question, c'est vous préfériez me laisser mes interrogations?
J'adorais déjà, vous m'avez dit que vous étiez, je sais plus quel terme vous avez employé, surpris,
perturbé.
Ça me va très bien. Ça me va très très bien, ça me plaît beaucoup.
C'est ce que vous voulez, provoquer un moment de confusion où on perd pied?
De réflexion, en tout cas. Après, il y a eu des réactions d'ailleurs très intéressantes lors du vernissage. Il y a un homme qui a pleuré, qui m'a pris dans ses bras. Il me dit qu'il a été bouleversé par le travail. Il y a deux personnes qui sont sorties de la salle en disant que ça remuait trop de choses. Et je crois que je n'ai pas la vocation à dire que je produis de l'art, parce que bon voilà, mais je crois que c'est là pour nous permettre de ressentir plein de choses, de nous évader, de nous questionner, de voilà. Et si le travail fait réagir, même pas toujours de manière positive, hein, parce qu'il y a des gens qui détournent le regard.
Ça, c'est ça le risque, en fait. C'est qu'il y a des gens qui partent. Mais ça, vous êtes prêt à prendre ce risque-là?
Oui.
De froisser des gens qui ne voudront pas voir parce que ça remet des choses trop fortes pour eux?
Bien sûr.
Non, mais je ne sais pas.
Non, mais vous voyez, il n'y a aucune hésitation. je crois que c'est l'idée, c'est ça. Et que forcément, quand on touche à quelque chose, quand on touche au cœur, je crois qu'il y a une réaction qui peut être positive comme négative. Et c'est vrai que mes images, en fait, elles ont cette ambivalence d'attraction-répulsion, parce qu'elles sont à la fois très graphiques et très colorées. Donc, elles vous appellent. Vous pouvez pas, c'est pas du tout des images neutres. Donc vous êtes au début, vous dites, ah, oh, ça crie, ces images crient, parce qu'elles sont une fois de plus assez saturées en général. Donc il y a une forme d'attraction qui fait que les gens y vont. Et après, souvent, il y a une répulsion. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que souvent les gens qui passent du temps devant l'installation, c'est ceux qui passent au troisième temps. C'est-à-dire que c'est attraction, répulsion. Donc là, il y en a qui partent et retour pour comprendre. Parce qu'il y a jamais, le sens n'est jamais immédiat, en fait. Il y a beaucoup de ce que vous avez évoqué au niveau du titre, il y a beaucoup de strates, en fait.
Et justement, je vais vous demander, comment vous faites? Vous partez sur une idée et vous faites les photos et vous composez l'ensemble? Ou j'ai envie de dire, au départ, vous partez de photos que vous avez déjà et puis vous dites, ah tiens, ça, vous-même, vous avez peut-être parfois surprise par les photos. Moi, je sens que chez vous, les choses sont très, très réfléchies, très pensées. Mais peut-être que parfois, vous vous retrouvez sur une photo et vous vous dites, celle-là, les... tiens, ça m'évoque ça. Et si je faisais une série sur ça, comment vous avez travaillé là, par exemple?
Non, c'est intéressant parce que c'est pluri. La réponse est, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas qu'une méthode de travail, justement, et c'est ça que je trouve magnifique dans. Et tu parlais vachement bien de l'évolution du médium photographique. Alors moi, je shoote avec 4 appareils photo différents. J'utilise de l'argentique, du numérique. Je m'interdis rien.
Vous retravaillez les photos?
Pour travailler, mais non, je les retouche pas. Par contre, mais par contre. Pour revenir à votre question initiale, il y a un mélange, justement, de réflexion et de non-réflexion. Parce que c'est aussi un travail qui part d'une histoire personnelle. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai conceptualisé. Il n'y a personne qui pose, quasiment. Donc ce n'est pas aussi calculé que peut-être. Je ne sais pas quel est le sentiment que vous avez eu. Mais... Donc, en fait, c'est vraiment un mélange, un genre de foisonnement, je crois, dans mon travail quand même. C'est assez dense. Et je trouve que c'est la magie de la photographie. Quoi. C'est un médium qui est hyper créatif, surtout maintenant. Avant, on était beaucoup plus formel. Et qui peut permettre de penser une image, de la concevoir en amont. Ou alors, là, je peux vous prendre en photo tout de suite, peut-être sur le vif. Non, mais c'est une possibilité qui s'offre à moi, en tout cas. Oui.
Mais là, par exemple, si on va au 104 et si c'est ouvert quand on y va, on peut donc, je redis, c'est de 14h à 19h au 104, rue Curial, dans le 19e arrondissement.
Et du mercredi au dimanche aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent le mardi.
Ah oui, c'est un peu comme ceux qui viennent le samedi matin. On ne va pas insister. Vous me disiez qu'on peut voir vos photos, mais on peut voir aussi des textes. Donc vous avez travaillé aussi une autre entrée dans votre travail, c'est important?
Alors, Et là,
je vois que vous avez amené un livre en plus.
Mm-hmm. Donc en fait, c'est pas des textes, mais en fait, disons que je suis intervenue sur le mur. Où j'ai écrit en effet, alors je vais pas le dire parce que sinon il n'y a pas d'effet, il y a la définition d'un terme qui est en effet que j'ai un peu tagué, on va dire, je sais pas comment dire autrement, enfin c'est du charbon en l'occurrence, où j'ai fait au charbon sur le mur directement, donc je suis venue intervenir par-dessus les photos.
Vous, de quel artiste, de quel photographe vous vous sentez proche, vous êtes inscrit dans quelle lignée?
Ça, il faut lui demander à elle, c'est plus intéressant, c'est rigolo, non? Piège, pardon, je voulais pas te piéger.
C'est un rebondissement de photos.
Alors, il y en a ça, alors. Qu'est-ce qui vous intéresse? D'abord, ça se trouve, vous avez voté contre elle, en plus, on ne sait pas.
Ah non,
parce que les votes sont secrets.
Voilà, comme ça, c'est pas, toi, tu es inspirée par qui? Tu t'es,
Alors, moi, j'aime bien Araki, par exemple, qui est un photographe japonais. Je suis pas insensible au travail de Nan Goldin. Là, elle est sur les écrans avec un film, etc. Mais voilà. Après, j'aime aussi des choses beaucoup plus esthétisantes, comme Viviane Sassen. Donc, c'est aussi assez bon. Et j'ai beaucoup travaillé avec un photographe qui est assez connu, qui est suédois, qui s'appelle, un couple de photographes, en l'occurrence, Io Engström et Margot Valar, de qui j'ai beaucoup appris en tout cas.
Vous avez fait cette série exprès pour ce festival ou vous l'auriez fait de toute façon?
Ah non. Et alors j'aurais jamais fait ça en plus par conviction quoi. C'est vraiment un travail personnel, un travail qui était déjà sous forme de livre avant
mais qui n'avait jamais été exposé mais qui existait sous forme de livre.
Ouais, exactement. Et je ferai jamais un travail pour être prise dans un festival ou pour c'est pas du tout des commissions. Et d'ailleurs c'est le cas de tous les artistes.
Pour rebondir là-dessus, nous en fait tous les projets qui nous sont proposés, envoyés ou quand on sélectionne des photographes, c'est toujours des projets qui sont terminés sur lesquels on a des coups de cœur, mais on va pas chercher. En tout cas pour Circulation, c'est pas du tout un travail qu'on va chercher. On va demander aux photographes de réaliser quelque chose. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Anne, nous on trouve aussi beaucoup de travail photographique à travers les livres photos parce qu'il y a énormément d'éditions photographiques qui sont très fortes et beaucoup de projets qui d'abord passent par le médium du livre et que nous on met au mur après. C'est d'ailleurs un challenge assez intéressant en tant que commissaire d'exposition et c'est vrai que ça, c'est souvent une manière qu'on a de trouver des travaux aussi à travers l'édition.
Alors, une question qui va me permettre de faire une transition entre le Festival Circulation et le Théâtre de Belleville. Il se trouve que j'ai dû passer 200 fois devant en venant à la radio. Il y a une citation de Victor Hugo, pas loin, qui dit « Créer, c'est se souvenir ». Alors, est-ce que c'est ça pour vous, Anne Massal?
Non.
Pas du... Non, mais c'est pas grave.
Désolée de en plus face à Victor Hugo. Qui suis-je face à Victor Hugo? En tout cas, je trouve que
c'est revivre.
Ça n'est pas que ça. C'est pour ça que ça me gêne. Parce que c'est enfermé. Bien sûr que ça peut être en partie ça, mais c'est aussi créer. Enfin, vous voyez, c'est à nouveau parce que je suis toujours dans l'ambivalence, mais ce souvenir, il me semble que c'est tourné vers le passé. Il y a un très bon livre de photos qui pose la question de savoir si le médium photographique n'est là que justement pour se souvenir et ne peut pas inventer l'avenir. Et moi, je pense que en fait, le médium photographique porte en lui aussi de l'avenir, alors que c'est très contre-intuitif. Bon, c'est tout un livre qui est écrit là-dessus par un expert, mais je trouve que c'est assez juste en fait.
C'est un peu la photo personnelle qui est une photo de souvenir, c'est ce qu'on a dans nos téléphones. C'est celle-là, elle n'est pas de création.
Si, je pense qu'en elle porte des germes même d'un avenir en fait, je crois. Mais ça serait un débat. Donc je vais laisser la transition totale.
On va aller voir la place au théâtre de Belleville avec vous, Lauriane Michel.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors on enchaîne avec vous, Lauriane Michel. Merci d'être venue. Alors d'abord, merci Clara Chalou et Anne Massal. Si vous avez des rendez-vous, je vous libère, mesdames. Merci encore d'être venues. Je rappelle quand même une dernière fois les festivals Circulation au 104 rue Curial de 14h à 19h du mercredi au samedi. Et sinon, dans le métro au dimanche. Et sinon, on va à Clermont-Ferrand. Allez, et en revenant, on va donc au théâtre de Belleville. On va voir la place d'après-midi Arnaud avec vous, Lauriane Michel. Donc, c'est un monologue qui est inspiré du roman éponyme de Annie Arnaud, prix Nobel de littérature depuis cette année. Oui. Et je vais juste demander qui avait eu l'idée de ce projet. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Hugo Roux, le metteur en scène?
C'est Hugo qui a eu l'idée au départ. En fait, il travaillait sur Leurs enfants après eux, sa précédente création de Nicolas Mathieu, et avait vu une conférence croisée entre Nicolas Mathieu et Annie Arnaud, sachant que Nicolas Mathieu messieurs se revendique, ou en tout cas a Annie Ernaux comme inspiratrice. Et donc ils faisaient une conférence tous les deux, et ce qui a intéressé Hugo sur l'écriture d'Annie Ernaux, et aussi dans les ponts qu'il pouvait y avoir entre leurs enfants après eux et l'œuvre d'Annie Ernaux.
Alors vous connaissiez Hugo Roux plutôt ? Et aussi Annie Ernaux comme lectrice ou pas du tout ?
Comme lectrice, oui. Moi, j'ai travaillé avec la compagnie d'Hugo depuis... on a fait l'ENSAT ensemble, école à Lyon, et on a travaillé ensemble depuis la sortie, donc ça fait...
Ah oui, donc vous avez joué dans Leurs Enfants Après Eux ?
Oui, j'ai joué dans Leurs Enfants Après Eux.
Je ne savais pas. Absolument. Ça. Vous jouiez quel rôle ?
Je jouais la mère, Hélène, et Clem.
D'accord. Et donc, vous, parce que quand on lit Annie Ernaux, est-ce que c'est évident que ça peut être du théâtre, ou au contraire, on se dit que non, c'est trop... Il y a une écriture trop particulière pour pouvoir la jouer ?
Je pense que, en tout cas, enfin, c'est pas une écriture qui a été pensée pour le plateau, contrairement à une pièce de théâtre ou un monologue classique, on va dire, qui a pour vue d'être joué sur un plateau. Mais en revanche, ça a été toute la recherche et tout l'enjeu aussi de comment cette écriture-là résonne sur un plateau, et qu'est-ce qu'elle fait entendre de différent ou de autrement, en tout cas, que la relation intime qu'un lecteur a avec une œuvre quand il la lit. Ce qui n'est
donc
pas
l'adaptation, c'est essentiellement, vous avez choisi des extraits et vous avez été associé ou...
Oui, on a fait ensemble la dramaturgie et le montage. C'est que un montage, donc, de coupe. Il n'y a pas du tout de texte en plus. C'est que la place de Annie Ernaux. Enfin, que c'est la place d'Annie Ernaux, et il y a des passages qui ont été coupés, notamment pour des questions de temps.
De temps, vous avez une heure, hein, c'est ça ?
Une heure, oui.
Alors, je ne sais pas si c'est le spectacle partout, si c'est juste au Théâtre de Belleville. C'est une heure de toute façon ?
C'est une heure de toute façon, oui, parce qu'on l'a joué dans d'autres cadres, dans le cadre de décentralisation. Donc, on l'a joué dans des lieux, ce qu'on appelle non dédiés, donc dans des bibliothèques, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des EHPAD, des lycées en plein air. Enfin, voilà, c'était à la base un spectacle qui était créé pour aller vers le public dans une forme de proximité.
Comment il reçoit le public, c'est vrai que on n'a pas du tout encore fait de petits résumés.
Oui.
Il faut quand même un peu le dire, hein. C'est la narratrice, elle est sur le quai, elle attend un train, elle apprend la mort de son père et elle se remémore qui a été cet homme et la relation qu'elle a eue avec lui.
Oui, c'est ça, exactement.
Comment, par exemple, on reçoit ça dans un institut psychiatrique ?
C'était une représentation assez intéressante, enfin très intéressante, en hôpital psychiatrique, parce que il y avait des choses qui... Déjà, c'est des âges très très différents, ce qui n'est pas le cas dans un EHPAD ou dans un lycée, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des réactions extrêmement différentes, soit des liens qui étaient faits. Par exemple, les papiers ont beaucoup, beaucoup interrogé tous ces morceaux de journal qui sont disséminés comme ça au fur et à mesure. Ça, c'était vraiment un intérêt très concret pour ce que c'était cette matière-là. Et il y a eu beaucoup de questions, parce qu'on fait toujours des bords plateaux dans ces cas de figure-là, sur qu'est-ce que c'était que cette matière, et puis aussi sur le lien au père. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont interrogé aussi de manière très sensible, ce qui est plus ou moins le cas en fonction des publics, parce que ça peut être aussi vu de manière assez sociologique et plus décortiquée en fonction des publics, quoi. Là, c'était plus sensitif.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que votre manière de jouer est assez plate, ne le prenez pas mal, mais j'ai écrit expressément parce qu'Annie Ernaux dit qu'elle a une écriture plate.
Oui.
Ce qui, selon moi, ne veut pas dire qu'elle a une écriture banale. C'est même tout le contraire, elle est travaillée. Et justement, vous, en le jouant de cette façon assez plate, on voit toute la subtilité de cette langue. C'est ce que vous avez voulu mettre en scène, sur scène, qu'on puisse l'entendre, le ressentir.
Oui, mais ça a été vraiment tout l'enjeu du travail de jeu qu'on a cherché, Hugo et moi, à travers ce travail. C'était vraiment en fait, on devait trouver le dosage entre le fait d'être de créer un spectacle, mais de ne pas trahir l'intention d'Annie Ernaux.
Je pense que c'est très très dur ce que vous faites. En fait, on s'en rend pas compte, mais...
Oui,
ça a été difficile à trouver
un petit peu au départ, parce que à la fois on voulait donc ne pas trahir vraiment l'intention d'Annie Ernaux, qui est l'écriture plate me vient naturellement, et en fait il y a un travail de précision et de reconvoquer des souvenirs de manière extrêmement précise, mais à la fois, comme c'est moi qui le dis et c'est pas Annie Ernaux, il y avait une chose, enfin tout un travail d'appropriation et aussi de mettre, dès qu'on met un point de vue sur un mot ou une phrase, ça change le sens. C'est une écriture qui, moi je dirais pas presque plate, mais presque translucide. Il y a quelque chose qui est très poreux et très sensible, et donc chaque chose que, qui est jouée change le sens, et donc c'était l'équilibre entre le fait de ne pas trop et ne pas non plus pas assez, sinon...
C'était peut-être ça le risque, c'était de tomber dans une lecture. Parce qu'en même temps, vous êtes sur scène, vous jouez, vous ouvrez des valises, il y a ces morceaux de journaux.
Exactement, ne pouvoir rendre ça... Enfin, c'est un spectacle qui n'est pas spectaculaire, mais qui doit être théâtral quand même. Donc c'était tout l'équilibre à trouver.
C'est un texte qui parle de la mort du père d'Annie Ernaux, de son ascension sociale à elle. Et ce qui est très particulier, c'est un monologue qui est aussi un dialogue. C'est quand même quelque chose d'assez construit. Et dans votre travail d'actrice, quelle place vous donnez au père ? Il est là pour vous, vous lui parlez, vous avez travaillé sur sa place ?
Pour moi, dans ce qu'on a choisi de défendre, elle ne s'adresse pas à lui, mais c'est plus une parole pour qui part de cette expérience et de son sentiment de sa place pour s'adresser à tous et toutes. Mais je pense pas que, enfin, comme il est mort, c'est plus un quelque chose qui ressemblerait à un hommage plutôt un hommage qu'une prise de, enfin, un dialogue directement avec son père, pour moi.
Hugo Roux qui a écrit, et donc dans le dossier de presse, Hugo Roux dit qu'il entend avec ce spectacle donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu.
Oui.
Est-ce que pour vous aussi c'est important ?
Oui. C'est aussi le travail dans leurs enfants après eux. C'est tout l'enjeu aussi de ces écritures-là, pour moi, de donner une place à des gens qui n'en ont pas forcément, mais comme le fait par exemple Joseph Pontus dans À la ligne. C'est vraiment l'enjeu du travail de la compagnie en ce moment.
Et c'est important du coup d'aller voir ceux qui n'ont pas cette place, parce qu'ils vont peut-être pas forcément au théâtre, ces gens-là.
Oui,
le père d'Annie Ernaux, je suis pas sûr qu'il soit souvent allé au théâtre.
Sans doute pas.
C'est pas un reproche que je vous fais.
Bien sûr.
Il y a quelque chose de paradoxal. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait tout ce que vous nous avez expliqué avant, aller jouer dans des lieux différents.
Oui, en tout cas, le projet en soi partait aussi du fait que la possibilité était donnée à la compagnie d'aller jouer dans ces endroits-là, et donc ça devient politique à un endroit. Qu'est-ce qu'on amène dans ces lieux-là et qu'est-ce qu'on fait entendre à des gens qui, comme vous le dites, n'ont pas du tout ou pas beaucoup l'habitude d'y aller. Après, nous, on fait du théâtre, donc on a la conviction que par ce médium-là, on peut toucher, on espère en tout cas, d'autres gens que les gens qui ont forcément l'habitude, notamment par les scolaires et tout ça. Mais c'est vrai, vous le dites très bien, que c'est pas forcément le cas.
Il y a une chose, j'aurais voulu, mais je vois le temps qui tourne, et malheureusement, il faut quand même le dire, un mot du dispositif qui est très beau, qui est très simple. C'est comme l'écriture d'Annie Ernaux, ça a l'air simple, mais c'est très beau et très travaillé. Mmh. Il y a des valises sur le plateau. Un banc, vous nous en dites un peu plus ou on laisse la surprise aux spectateurs ?
Non, c'est plutôt bien résumé. C'était aussi toute la recherche.
Mais réussir à faire quelque chose avec si peu de choses, quoi, c'est ça qui est, je trouve, formidable.
En tout cas, c'est vrai que les valises, pour nous, représentaient vraiment plein de choses, et qu'on a voulu, un peu comme vous disiez tout à l'heure, Anne, de ne pas fermer les sens et au contraire d'essayer de les ouvrir un maximum et de ne pas porter trop de points de vue, mais de pouvoir faire en sorte que ce monde-là soit découvert et que chacun puisse aussi faire travailler son imagination à son endroit et de manière libre.
Il y a d'autres textes, Annie Ernaux, que vous aimeriez jouer maintenant ?
J'ai adoré L'autre fille et je trouve que c'est un texte vraiment sublime.
Elle est venue vous voir ?
Pas encore.
Vous nous l'avez invité quand même ?
Oui, bien sûr.
On va lui dire absolument qu'elle est. C'est vraiment une mise en théâtre magnifique de ce texte qui s'appelle donc La place d'Annie Ernaux. Je vais quand même dire que c'est, parce que moi qui suis obsédé par les dates et les heures, on l'aura compris. Alors vous êtes pendant tout le mois d'avril au théâtre de Belleville, les mercredis et jeudis à 21h15, le vendredi et samedi à 19h15.
Exact.
Et je dis à nos auditeurs quand même que les moins de 26 ans ne paient que 12 €. Je sais que pour certains étudiants, les mois sont à l'euro près, mais là quand même il y a un effort qui est fait. Vous pouvez aller au théâtre voir Annie Ernaux, La place, jouée magnifiquement par Lauriane Mitchell, et c'est au Théâtre de Belleville. Et c'est 12 euros, voilà, c'est pardon. Ça. C'est ça que je voulais dire.
Merci beaucoup.
Je n'ai beaucoup à dire parce qu'il y a un vrai effort qui est fait en direction du public jeune. Et d'ailleurs, il y a toujours des jeunes dans ce théâtre.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un chouette endroit.
Merci beaucoup.
Donc voilà. C'est parti un peu fort, j'ai eu peur. C'était La Relève, c'était sur Radio Campus, c'était préparé, présenté par Christophe. La réalisation était assurée par la reine de la virgule, Alison. Vous retrouvez toutes les émissions et les précédentes sur les sites de Radio Campus Paris, rubrique La Relève, à 18h, à 19h, puisque je dis c'est la matinale, c'est dans 15 minutes. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben, la semaine prochaine, c'est numérique, c'est le 1er mai, on ne sait pas encore si on défilera ou si on sera à la radio, alors on verra bien. Peut-être rendez-vous premier, bonne soirée.